c'est un essai de Schumpeter que nous allons explorer, Théorie de l'évolution économique, paru en 1911. Joseph Alois Schumpeter, économiste autrichien, qui explique dans cet ouvrage l'évolution de l'économie entre périodes d'essor et périodes de crise. Et c'est Emmanuel Combes qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tiffaine.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 1 et vice-président de l'Autorité de la concurrence. Alors d'abord, qui est Schumpeter? Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots et nous dire peut-être quelles sont ses influences intellectuelles?
Alors d'abord, ce qui caractérise Schumpeter, c'est un auteur autrichien. Il faut peut-être se replonger dans l'atmosphère de l'Autriche à la fin du 19e, début 20e siècle, puisqu'il est né en 1883, donc il avait une vingtaine d'années au début du siècle. C'est l'Autriche, en tout cas la Vienne, que décrira Stefan Zweig dans le monde d'hier, donc un des centres intellectuels les plus importants en Europe. À la même époque, n'oublions pas qu'on a, et on va y revenir peut-être, Freud, qui à mon avis va influencer indirectement Schumpeter. Vous avez la naissance de la sociologie, on parle souvent de la sociologie française avec Durkheim, certes, et aussi la sociologie allemande avec Max Weber, je crois d'ailleurs qu'ils ont été collègues, et puis Zombart. Donc vous avez toute cette effervescence-là à Vienne, et il écrit Théorie de l'évolution économique en 1911, donc relativement jeune. Puis ensuite, vous le savez, il tente une courte carrière politique au sortir de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il est ministre des Finances. Puis il dirige même une banque qui fait faillite, et en 1927, il part aux États-Unis à l'université de Harvard, qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort en 1950.
En quoi, Emmanuel Combes, peut-on dire que Schumpeter opère une rupture avec l'analyse néoclassique dans sa théorie de l'évolution économique?
Alors si vous me permettez, Tiffaine, j'irai même plus loin, il opère une triple rupture. C'est en ce sens-là qu'il est novateur. Il opère une rupture, comme vous l'avez dit fort justement, en son temps, avec l'économie qu'on appelle néoclassique, allez, disons libérale pour faire simple. Dans l'économie néoclassique, c'est une économie où il se passe rien, où au fond il est question uniquement de quantité, de prix d'équilibre. Il n'y a pas d'histoire, ou plus exactement le temps, c'est un temps mathématique. Et on ne parle jamais d'évolution, le terme n'est pas neutre, c'est pas théorie de la croissance économique, c'est théorie de l'évolution. Théorie de la croissance, les néoclassiques raisonnent en accumulation de quantité. La croissance, c'est quoi? Je produis 2 chaises, ensuite j'en produis 4 et j'en produis 6. Et donc par rapport à l'économie néoclassique, la grande rupture, mais on va y revenir, c'est le rôle de l'histoire, le rôle de l'irréversibilité, le rôle du changement qualitatif et pas seulement quantitatif. C'est aussi une rupture par rapport à 2 autres écoles qui, moi, m'ont laissé un peu insatisfait. Tout d'abord, le marxisme. On a une très belle explication historique, mais qui est trop déterministe, dans laquelle les individus n'existent pas, ce sont les structures qui parlent. Et on va y revenir. Ce qui est passionnant chez Schumpeter, c'est qu'il est marxiste en ce sens qu'il a une vision de l'histoire. Il y a une fin de l'histoire, la victoire du socialisme, mais en même temps il fait une place à l'individualité. Donc ça, pour un jeune, je trouve que lire Marx et lire Schumpeter, c'est quand même plus Adam Smith, c'est les 3 grands auteurs qui vous donnent une vision du monde.
Vous disiez que son titre, Théorie de l'évolution, n'est pas neutre. Et en effet, c'est une référence directe à Darwin. Mmh. Pourquoi est-ce que Schumpeter, selon lui, le capitalisme, est comparable à un organisme vivant? Qu'est-ce que ça signifie, cette analogie?
Ce qui est fascinant avec la notion d'abord d'évolution, c'est que qui dit évolution, on ne va pas avoir besoin de causes extérieures pour comprendre la dynamique du capitalisme. Elle est interne au capitalisme lui-même. C'est le capitalisme lui-même qui va créer les propres conditions d'abord de son changement et aussi de son déclin. Il annonce quand même la mort du capitalisme à terme. Donc dans l'idée d'évolution, vous avez raison, il y a l'idée que le système lui-même engendre ses propres dynamiques. Il y a une autre notion très importante dans la notion d'évolution, c'est cette notion, cette idée d'irréversibilité. La croissance, ça n'est pas qu'une affaire d'accumulation, produire plus. Il dit finalement, ça c'est ce qu'il appelle le circuit. On reproduit toujours la même chose. Le capitalisme, dans l'évolution, il y a l'idée d'un changement qualitatif, avec le fait que une voiture, ça n'est pas un cheval qui va plus vite. C'est qualitativement différent et surtout, on ne revient pas en arrière.
L'évolution économique dont Schumpeter parle est matérialisée par des cycles et la source de ces cycles, c'est l'innovation. Alors, en quoi consistent ces différentes innovations dont parle Schumpeter? Il en distingue 5.
Alors on peut les rappeler peut-être rapidement et après on voit à quel point c'est moderne. Première chose, bien sûr, inventer un nouveau bien. Vous mettez un iPhone sur le marché, c'est quelque chose qui est qualitativement différent, un nouveau service. Ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle méthode de production, je vais y revenir, une autre manière de produire. Ça peut être la découverte d'une nouvelle matière première qu'on n'utilisait pas, un nouveau débouché ou même une organisation du travail. Et ça, c'est très moderne et je pense que ça entre aussi en résonance par rapport à notre culture, sans vouloir faire de procès d'intention. C'est vrai qu'en France, quand on dit innovation, spontanément, on pense recherche-développement, et on a raison. On pense brevet, on pense ingénieur, on pense chercheur. Là, ce que nous dit Schumpeter, c'est que l'innovation, ça peut être des choses, je dirais, très simples. Permettez-moi quelques instants de revenir sur cette notion de nouvelle méthode de production. Il se trouve que je suis spécialiste d'un sujet, et souvent d'ailleurs on m'en fait grief en me disant « mais si tu étudies ce sujet, c'est que tu le défends ». Non, je ne le défends pas, il existe, ça s'appelle le low cost. Et souvent on me dit « mais le low cost, monsieur, ça n'existe pas, c'est un artifice, c'est une illusion, regardez Ryanair, ils exploitent les travailleurs, etc. » Ce qui n'est pas faux. Et moi, j'essaie d'expliquer que le low cost, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui est un second sujet, c'est bien une innovation. C'est très, très compliqué de faire un produit extrêmement simplifié. Mais pour revenir à votre question, ce qui est fondamental dans l'approche de Schumpeter, c'est que derrière le lancement de ces innovations, il y a des individus. Et j'emploie à dessein le terme d'individu parce que, au fond, ce qui m'a fasciné chez Schumpeter, c'est sa vision de l'entrepreneur.
Une figure essentielle dans l'œuvre de Schumpeter. Pour lui, c'est un créatif marginal.
Oui, c'est ça qui est original, c'est que, je n'ai pas fait l'expérience, mais je suis sûr que si dans la rue, on interroge une personne et on lui demande, mais au fond, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est un patron. Et un patron, d'abord, on n'a pas forcément une bonne image. Et quand on en a une, on va plutôt voir l'image de l'ordre établi, de l'insider, de celui qui n'a plus rien à prouver, qui mise sur la hiérarchie, qui est dans le système. Et quand vous lisez Schumpeter, l'entrepreneur, c'est un marginal. On ne naît pas entrepreneur, on ne reste pas entrepreneur, on peut éventuellement l'être au cours de sa vie. C'est un moment, c'est un état transitoire, mais en aucun cas on peut définir un entrepreneur comme un statut. Ensuite, il nous dit l'entrepreneur, il va se heurter à l'ordre établi. En fait, l'entrepreneur, c'est le marginal de l'économie. Mais au fond, qu'est-ce qui le motive? C'est pas l'appât du gain qui le motive. Il ne vit pas pour jouir de ce qu'il a acquis. Si ce désir surgit, c'est pour lui la paralysie, et non un temps d'arrêt sur sa ligne antérieure.
On voit que l'originalité de Schumpeter, en effet, c'est d'être un économiste qui s'est intéressé à beaucoup d'autres domaines. Et avec cette figure de l'entrepreneur, il se rapproche par exemple de la sociologie. Oui. Vous citiez tout à l'heure Max Weber, qui a effectivement été proche de lui, qui a eu beaucoup d'influence sur lui. Et c'est peut-être là qu'il faut faire intervenir un nouveau concept qui est essentiel dans la pensée de Schumpeter, c'est celui de destruction créatrice. C'est l'idée qu'on ne peut faire du neuf qu'en détruisant du vieux.
Oui. Alors ça, c'est fondamental dans la théorie de l'évolution économique, qui commence par un état du monde qu'il appelle le circuit. Alors qu'est-ce que c'est qu'en deux mots le circuit? C'est assez intéressant, c'est un monde dans lequel il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne produit pas, on produit toujours la même chose, on consomme toujours la même chose. Et finalement, il nous dit que ça ressemble beaucoup à l'économie néoclassique. L'ajustement se fait par les prix, l'offre égale la demande, etc.
Et l'équilibre est l'idéal.
Et il vous dit c'est un marché où il n'y a pas de rente, c'est un marché de concurrence, au sens néoclassique du terme, un très grand nombre de producteurs, le profit est réduit à néant, et on arrive sur ce, dans cet état où il ne se passe rien, arrive l'entrepreneur qui va détruire. Par définition, lorsque vous lancez une innovation, elle va nécessairement un jour ou l'autre, peut-être pas au début, un jour ou l'autre empiéter sur ce qui existait déjà. Regardez l'actualité du sujet. Airbnb, lorsque cette application a été lancée il y a 10 ans, 15 ans, je pense qu'elle n'était pas concurrente des hôtels. Ça n'était pas la même clientèle. C'était plutôt une clientèle jeune, qui avait une forte contrainte de revenus, et qui finalement ne connaissait pas vraiment l'expérience de l'hôtel. Regardez ce qui s'est passé au cours du temps. Airbnb est montée en gamme et pour le coup, elle est venue attaquer de manière frontale les hôtels avec un business model complètement différent. Donc il y a toujours cette idée que la création, quand vous lancez un nouveau business model, nécessairement, vous allez détruire ce qui existait avant. Dans un premier temps, l'innovation va incuber, l'entrepreneur va se heurter à des résistances, puis ensuite l'innovation va prendre et ça va être une phase de croissance. Ça va être une phase d'expansion. Ça correspond quand même assez bien aux années 2000 jusqu'à la crise de 2008. La diffusion d'Internet, les nouvelles technologies. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Ces innovations vont être peu à peu imitées. Et donc le profit va diminuer, la concurrence va revenir. Celui qui était en monopole, on va y revenir sans doute, ne va pas rester si longtemps que cela en monopole. Il va être imité et il va succéder à une phase d'innovation, une phase de diffusion technologique qui va être plutôt une phase de récession ou en tout cas de croissance moins. Donc au fond, pour Schumpeter, la crise est la conséquence nécessaire de la croissance. Et ce que nous dit Schumpeter, c'est que l'entrepreneur n'existe pas s'il n'a pas à côté de lui un second marginal. Et là, ça nous fait presque sourire parce que ce n'est pas l'image qu'on en a, c'est le banquier.
Alors en quoi le banquier est-il un marginal ?
Eh bien, Schumpeter nous dit, par définition, revenons au circuit. Dans le circuit, on ne prête pas. Puisque de toute façon, le circuit, c'est à ça ronronne, c'est toujours les mêmes biens qui sont produits. On a besoin de quelqu'un qui dise à l'entrepreneur, écoute, tu as des idées, tu n'as pas d'argent, je vais prendre le risque de te prêter. Qu'est-ce qui va lancer l'innovateur ? C'est le fait qu'on lui fait du crédit.
Emmanuel Combe, vous diriez que c'est le retour des crises économiques à partir des années 70 qui redonne à Schumpeter une nouvelle audience. Et à nouveau, au moment de l'effondrement de la bulle Internet dans les années 2000, il est revenu à la mode, Schumpeter ?
Je trouve que Schumpeter est revenu à la mode, notamment sous la plume de Philippe Agion et puis d'autres auteurs, parce qu'il a montré que quand une économie arrive à la frontière technologique, en France, on a rattrapé les États-Unis depuis les années 70. Il n'y a pas 36 solutions pour relancer la croissance. C'est d'avoir des innovations qu'on appelle radicales. Et on voit bien l'actualité du sujet, notamment en Europe, pas qu'en France. La difficulté que l'on a en Europe, par rapport aux États-Unis, à faire émerger, notamment sur le numérique, des nouveaux géants. On a une vision assez conservatrice de l'économie. Et Schumpeter nous dit, si vous voulez de la croissance, il faut accepter les disrupteurs. Et je trouve qu'il y a des éléments tellement modernes chez Schumpeter sur sa vision des élites. Avec l'idée qu'au fond, l'entrepreneur va avoir de plus en plus de mal à s'exprimer. Il va y avoir une forme de pensée commune. On a tous une préférence pour la routine. Au fond, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le comportement routinier qui est rassurant. Et ce qu'il va montrer, notamment dans capitalisme, socialisme et démocratie, c'est que dans des sociétés modernes, paradoxalement capitalistes, être disruptif, être marginal, va devenir de plus en plus difficile. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas complètement faux quand on regarde notamment certains symptômes en Europe ou même en France, où on a tendance à confondre l'entrepreneur et le chef d'entreprise, ce qui n'est pas la même chose.
Pour conclure, Emmanuel Combe, pourquoi faut-il, selon vous, lire la théorie de l'évolution économique plus de 100 ans donc après sa parution ?
Parce que d'abord, il propose une vision de l'économie. Je trouve que c'est assez rare. On trouve ça chez Marx et chez Adam Smith, au-delà de la mécanique, une vision de l'économie. Et en plus, je suis persuadé que la fin de l'histoire, qui est quand même la victoire du socialisme, il le regrette. Qu'est-ce que d'ailleurs le socialisme ? Quelle préscience ! Pour Schumpeter, le socialisme, ça n'est pas la violence physique, c'est un monde, c'est l'État stationnaire. C'est le circuit où il ne se passe rien, où tout le monde consomme la même chose. Et il vous dit, j'en suis désolé, mais on va aller vers cet état-là. Et je trouve que c'est pas complètement faux quand on regarde quand même la tentation qu'on a tous, c'est une opinion personnelle, à quand même avoir du mal avec la nouveauté radicale, avec cette idée qu'au fond, il faut tous penser la même chose. Et vous le savez, Schumpeter a des mots assez durs sur ma profession et sur la profession des intellectuels en général, en disant, mais au fond, les intellectuels sont le fruit du capitalisme et en même temps, ce sont eux qui vont causer sa perte en expliquant que ces entrepreneurs n'ont plus lieu d'être. Donc moi, je conseille vivement à nos auditeurs de lire soit « Théorie de l'évolution économique », qui est un ouvrage aride, il faut le dire, parce qu'on va vraiment sur du concept. Et si on veut vraiment se faire plaisir, il faut aller sur « Capitalisme, socialisme, démocratie ». Et je conseille en particulier le chapitre qui s'appelle « Les murs s'effritent », où Schumpeter, en 20 pages, 30 pages, vous dit « Écoutez, je suis désolé, mais Marx a raison, il n'y aura pas de révolution, on va tous aller vers le socialisme ». De plein gré. Et je trouve que la description qu'il fait du socialisme est assez intéressante.
Merci beaucoup, Emmanuel Combe. Je rappelle votre ouvrage précis d'économie dont la dernière édition est parue au PUF cette année. Un grand merci.